téléphone sonne. 01 45 24 7000. Vos questions, vos réactions sur franceinter.com.
Bonsoir. Pour un oui ou pour un non, voici donc l'Irlande en passe de créer demain l'événement avec ce référendum sur le traité de Lisbonne, le seul pays des 27 de l'Union à organiser une telle consultation avec un résultat qui ce soir encore, nous dit-on, demeure incertain et puis des enjeux ou à tout le moins des conséquences inévitables pour le cas notamment où les Irlandais refuseraient un traité ratifié ailleurs par voie parlementaire, mais avec encore en France par exemple des adversaires tout à fait résolu dans la logique du non au référendum de 2005, le tout, on le sait bien, à quelques semaines du début de la présidence française. Alors gros plan ce soir sur ce référendum irlandais, son contexte européen bien sûr, les arguments avancés par les tenants du non comme par ceux du oui, et puis évidemment le contenu de ce traité de Lisbonne qu'il faut peut-être rappeler, en tout cas vous êtes nombreux à poser la question, et puis ce qui pourrait se passer si l'Irlande rejetait le texte. En direct avec nous pour répondre à vos questions, Jean-Pierre Molny, directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et stratégique, John Maguire, rédacteur en chef à Radio France Internationale et correspondant pour la RTE, la télévision irlandaise de service public, Quentin Dickinson, exceptionnellement en studio avec nous, je le remercie, il rentre d'assez loin, de Slovénie, et il est donc de passage ici à Paris, et puis bien sûr au téléphone notre correspondant à Dublin, Hervé Amorik.
Le téléphone sonne.
Michel, bonsoir, vous êtes en Haute-Loire.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, on vous écoute, Michel.
Alors, ma question est la suivante. On essaie de culpabiliser les Irlandais en leur montrant que 500 millions d'Européens dépendent du vote de 3 millions d'Irlandais. Alors, moi, je dis, c'est quand même invraisemblable de présenter les choses de cette manière, alors que les Irlandais sont les seuls à avoir choisi la voie démocratique. Voilà, c'était une réflexion, éventuellement une question. Merci. Bah,
écoutez, on va réagir. En tout cas, vous l'avez dit vous-même, hein, c'est la démocratie. Ils vont voter comme ils l'entendent demain. On verra s'il en sort une majorité de oui ou de non. Pour le reste, sur les enjeux et les conséquences, Quentin Higginson.
Oui, tout d'abord, les Irlandais, monsieur, n'ont pas choisi. C'est une obligation qui leur est faite par la Constitution de 1922 pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la construction européenne. Et les traités internationaux sont donc soumis à référendum, avec les aléas que cela provoque. D'autre part, pourquoi est-ce que une ratification parlementaire serait moins démocratique qu'un vote par référendum? Je crois que chacun fait comme il l'entend. Ce qui est vrai, effectivement, c'est que là, vous l'aviez bien dit, la situation paraît un peu paradoxale dans la mesure où, effectivement, un corps électoral qui doit être à peu près, comme vous dites, d'environ 3 millions d'habitants, tient en l'état une Union européenne où il y a 450 000 autres habitants. Mais je pense qu'on aura l'occasion de le dire au cours de cette émission. Il y a différentes formules qui devront être examinées. Il faudra en tout cas, en cas de non, faire preuve d'une grande imagination, une grande créativité juridique.
Commentaire-vous aussi, John Maguire?
Je pense, vis-à-vis de cette question, que les commentaires venus de l'extérieur de l'île, que ça soit en France ou ailleurs, ont donné du vent en poupe au non. Mm-hmm. Je pense strictement à Bernard Kouchner, le ministre des Affaires étrangères de France, qui il y a 3 jours a critiqué très ouvertement les Irlandais. Bon, peut-être justement, je ne prends pas de position, mais la façon dans laquelle c'était rapporté dans la presse et les médias irlandais était très négatif.
J'aurai l'occasion d'en lire tout à l'heure. J'ai reçu un certain nombre de courriels d'Irlande, justement, et qui disent, et ça fait écho à ce qui se passait ici même en France pour notre référendum en 2005, les Irlandais qui n'aiment pas beaucoup précisément que tel ou tel à l'extérieur leur dise quel chemin suivre. Démocratie oblige, comme le disait cet auditeur. Jean-Pierre Molny.
Ben oui, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, oui. On a vécu le même problème, nous, Français, en 2005. C'est-à-dire, on voit souvent, effectivement, les peuples sous la pression voter contre cette pression. Maintenant, pour ce qui est de l'adoption du traité de Lisbonne, effectivement, le choix, il est ouvert entre référendum et vote parlementaire. En Irlande, c'est le référendum. Ce qui est sûr, c'est que ce traité de Lisbonne, qui est la suite 28 du traité constitutionnel. C'est quelque chose qui a déjà été élaboré depuis 6-7 ans. Et en cas d'échec, ça voudrait dire que depuis 10 ans, l'Europe patine dans son avancée. Ça, ce serait quand même un problème.
Hervé Amorik, bonsoir. Vous êtes en direct de Dublin. Je le disais, rapidement, je l'indiquais en commençant, le vote est toujours ce soir incertain. Y a-t-il de tout dernier sondage et des indications que disait aujourd'hui, par exemple, la télévision, la presse, la radio?
Non, Alain, les sondages et la campagne
sont terminés, voilà, 24 heures avant.
C'est ça, aujourd'hui les électeurs ont eu droit à une journée de réflexion traditionnelle avant de se rendre aux urnes demain. Et enfin, toutefois, avant de se taire, les chefs des trois principaux partis politiques irlandais hier ont lancé un appel à leurs concitoyens en leur demandant d'abord de se rendre aux urnes et de voter oui. Parce qu'il est vrai qu'une bonne participation va favoriser le traité. Et dans son appel, le Premier ministre irlandais, Brian Cowen, a noté que 90% des élus désignés par la population aux dernières élections ont appelé à voter oui. Ça fait 96% des députés qui considèrent que ratifier le traité est dans l'intérêt national de l'Irlande. Tous ces élus ont mené une campagne énergique. Pourtant, malgré cela, en termes d'intention de vote, les derniers sondages montrent clairement des partisans du non presque à armes égales, au coude à coude, avec le camp du oui. Alors, est-ce que l'électorat est devenu sourd aux appels de ses élus? C'est une question que tout le monde se pose ici, parce que c'est un peu la première fois que ce sentiment anti-establishment, c'est pas seulement anti-élu, parce que les syndicats nationaux d'employeurs, d'employés ont aussi appelé à voter oui. Donc il ne s'agit pas de punir le gouvernement, mais les électeurs se plaignent de n'être pas assez informés, de ne pas comprendre ce traité. Lorsque les élus simplifie la question, on les accuse de condescendance, de paternalisme, en insistant dans sa campagne sur les nombreux avantages que l'Irlande a tirés de son appartenance à l'Union par le passé, depuis 35 ans, le gouvernement s'est vu reprocher de vouloir éviter le débat sur le traité lui-même. Alors faire campagne dans ces conditions, c'est vrai que c'est difficile pour tous les élus ici, et l'ancien Premier ministre irlandais, Gareth Fitzgerald, a résumé ainsi sa campagne, il est plus facile d'inquiéter les électeurs que de les rassurer.
À vous écouter, Hervé Amorik, on se dit 3 ans déjà, 3 ans seulement, ce fossé entre les élus et puis la population, le fait que les Irlandais ne vont pas forcément voter comme les parlementaires, tout ça peut rappeler à certains un certain nombre de souvenirs relativement frais. Après tout, c'était avant-hier, hein, en 2005, notre propre référendum. Martine, bonsoir, vous êtes à Provins, en Seine-et-Marne. Vous nous écrivez que vous aussi, vous êtes persuadé que les Irlandais vont voter non, c'est cela?
Ah ben non, je n'ai pas tout à fait dit ça, mais
je ne serais pas étonné que les Irlandais votent non. Je lis votre courriel.
Je ne serais pas étonné qu'ils votent non, oui. Je ne l'espère pas, mais finalement, c'est 3 millions d'Irlandais qui voteraient non. Peut-être que ce serait une provocation, non pas parce qu'on n'est pas européen, et je me mets dans le « on » parce que moi, j'ai voté non en 2005, alors que je suis une européenne tout à fait battante, mais pour moi, l'Europe, c'est la paix, c'est Erasmus, c'est l'euro, c'est des réalisations tout à fait concrètes. Et je pense que tous les Européens sont pour cet Europe-là, mais on est relativement prudent sur le virage à prendre et sur l'Europe sociale. Et c'est vrai qu'il y a un décalage entre le peuple et les personnes qui prennent les décisions. Et je pense qu'effectivement, il n'y a pas vraiment de... C'est pas très clair. Alors, on a des lois sociales, on a un passé social, nous, en Europe, et je pense que ça peut être un plus pour valoriser ça au niveau de la triade, et non pas passer dans une mondialisation pure et dure où tout le monde se perd un peu et on se trouve pas du tout à notre place.
Quentin Dickinson, un commentaire à ce que disait Martine à l'instant.
Non, je trouve assez extraordinaire ce que nous dit Martine, précisément. Parce qu'elle souligne effectivement les acquis, les choses extrêmement positives et publiques que la construction européenne a apporté. Elle cite l'euro, elle cite Erasmus,
etc. Les étudiants avec Erasmus, etc.
C'est d'ailleurs une excellente initiative qui demande d'ailleurs être élargie, peut-être, vers les jeunes qui ne font pas
d'études
supérieures. Voilà. Non, je crois que vouloir du social et voter non au référendum en France, ça me paraît un peu contradictoire. Je veux dire, en votant non, on a éjecté effectivement la charte sociale qui faisait partie intégrante de la Constitution. Mais encore et toujours, ça c'est le passé. Comme vous le disiez Alain, c'est le passé. Je crois aussi que on ne connaît pas assez le système de fonctionnement et la responsabilisation politique des institutions européennes. Il y a là plus de 700 députés européens qui sont élus au suffrage universel direct, et ça ne date pas d'hier, ça date de 1979. Ces gens-là sont responsables, on les a élus, ils sont là pour vérifier, contrôler, représenter les électeurs européens. Tous. y compris les Français. Et puis, les membres également de la Commission européenne sont désignés effectivement par les chefs d'État et de gouvernement, mais qui sont eux-mêmes des élus. Donc, il y a une vraie transparence dans la désignation de ces personnes. Il ne s'agit pas de gens totalement anonymes et irresponsables. Je crois qu'il faut bien dire cela.
Jean-Pierre Mounier.
La question de l'Union européenne, c'est qu'en fait, coexiste à la fois ce qu'on pourrait appeler un modèle intégré, un modèle communautaire, c'est-à-dire une sorte de modèle unique, et puis un modèle intergouvernemental où coexistent 27 pays. Si demain l'Irlande vote non, on verra le modèle intergouvernemental à l'œuvre, puisque... a priori, il n'y aura pas de traité de Lisbonne. Ce qui est sûr, c'est qu'on souhaite de plus en plus aller vers un modèle intégré, parce que le modèle intégré, il est performant. Mais la contradiction, c'est que plus il y a d'États, plus il est difficile de trouver un accord entre ces 27 États. Et c'est ce problème-là auquel on est confronté, en fait, aujourd'hui.
John Maguire.
Oui, il y a bien sûr du social dans le rejet de ce traité en Irlande, ça c'est clair. Par exemple, le seul parti qui est contre, c'est le Sinn Féin, l'aile politique de l'IRA, qui est quand même socialiste, se situe à gauche. Mais il y a aussi le business, parce que l'Irlande a fait beaucoup d'argent pour le simple fait que le taux de fiscalité sur les grandes entreprises, etc., est entre 10% et 12,5%. Et le plus grand lobby, le groupe de lobbying en Irlande contre la traité de Lisbonne est quand même financé par un des plus grands capitalistes du pays, Mr. Ganley. Je parle du groupe Libertas. Donc il y a eu un énorme clash il y a deux ou trois jours entre un membre de Parlement européen de droite en Irlande qui vote bien sûr pour et cet homme-là en disant que c'est les Américains, l'armée américaine, qui payent sa campagne. Donc il y a quand même une confusion. Le contre est très hétéroclite.